Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sal et je vous accueille à cette émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix de São Paulo 2023, disputé sur le circuit d'Interlagos sous l'autodromo José Carlos Pache, qui sera de retour d'ailleurs jusqu'en 2030. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et pour parler de ce Grand Prix, j'accueille avec moi Marc-André Fortin. Salut Marc-André.
Salut Abdou.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi.
Est-ce que tu t'es... Moi, je vais bien, merci. Je me remets tranquillement de mes émotions après ce dernier.
Avec raison.
Je ne sais pas, toi, comment tu te sens après ça?
Écoute, une course en haute intensité, je pense que ça va de soi là, qu'on se remette tranquillement. Là.
Ouais, mais on, de toute façon, le temps qu'on digère un peu ce qui s'est passé, je vais vous donner... On va en reparler un petit peu plus tard de ce dernier tour de fou. Mais avant, je vais vous donner le classement du Grand Prix de São Paulo 2023. Donc, après près de 2 heures de course, Max Verstappen a gagné le Grand Prix, sa 17e victoire de la saison en Grand Prix, son 21e si on ajoute ses 4 victoires en sprint. Lando Norris, parti 6e, termine 2e. Fernando Alonso, 3e. 4e, Sergio Perez par 0.053 millième. Lance Stroll finit 5e. Carlos Sainz, 6e. Pierre Gasly sur la Alpine, 7e. Lewis Hamilton, 8e. Yuki Tsunoda, 9e. Et Esteban Ocon, 10e. Et la liste est longue pour les abandons. George Russell, Valtteri Bottas, Zhou Guan Yu, Kevin Magnussen, Alex Albon et Charles Leclerc, qui en fait n'a même pas pris le départ de ce Grand Prix. Donc, on reviendra un petit peu plus tard. Mais avant tout, Marc-André, quelle est ta performance et ton moment cocasse?
Écoute, performance du jour, je pense que je vais y aller avec Norris. Bien entendu, j'ai pensé y aller avec Alonso, avec la course qu'il a fait, avec la performance qu'il a réussi à faire, tout ça. Mais écoute, je pense que Norris a été encore une fois exceptionnel, encore une fois montré qu'il était un pilote de talent lorsqu'il a une voiture lui permettant de pousser un peu plus fort. Et puis, encore aujourd'hui, je pense qu'il a prouvé qu'il était un pilote d'exception. Mais écoute, je pense qu'Alonso aurait très bien pu rentrer dans la discussion là, avec la course d'intensité qu'il y a eu. C'est drôle, hein, parce que quand il est en position pour se défendre et vraiment à être proche de la victoire ou du moins de pouvoir y aspirer quelle que soit la manière, on dirait qu'il se met dans un mode de conquérant et il n'y a rien qui vient à sa... Il n'y a rien qui va venir lui enlever ça. Donc, incroyable course encore pour Alonso. Là. Donc, ce serait mes moments.
Et quel est ton moment cocasse, devrais-je dire? Pas contre-performance, mais moment cocasse.
Moment cocasse, est-ce qu'on y va? C'est pas très cocasse, mais avec le photo finish à la fin, tu sais, on pouvait pas s'attendre à avoir besoin d'un photo finish comme ça. Il me semble que ça fait longtemps qu'on en a pas eu, donc je pense que j'irai avec ça, même si c'est pas un moment très cocasse.
Ben, écoute, il y a la Formule 1 qui a publié l'image officielle du photo finish. Il y avait vraiment... Perez était aussi proche, mais certes, c'est pas proche que Alonso et Vettel l'année dernière où c'était 11 millièmes entre
les deux. Là, c'est quoi? C'est 53 millièmes,
c'est ça? C'est ça.
Ouais.
Mais,
okay.
Moi, je dirais parce que c'était une bataille pour la dernière place sur le podium. Moi, je pense que, et surtout dans l'intensité où ça a été, moi, je préfère cette bataille entre Alonso et Perez au photo finish que Alonso Vettel l'année dernière à Suzuka sous la pluie.
Oui, mais c'est une opinion totalement.
Et bon, donc, moi, je vais garder un peu mon énergie pour parler de ça. Moi, ma performance du jour, ben, je vais la donner à Aston Martin parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle performance de la part des deux pilotes, mais on reviendra là-dessus. Et le moment que casse, je vais y aller avec. J'ai pas regardé ça en direct, mais juste avant d'enregistrer l'épisode, j'ai regardé ça, puis Machine Gun Kelly était sur la grille.
Et, ah ouais?
Ouais, parce que à part, et c'est lui-même qui l'a dit, il était avec, je pense avant la fin de semaine du Grand Prix, il était avec Lewis Hamilton en studio, donc il y a possiblement une collaboration entre les deux qui se fait, mais Machine Gun Kelly, bon, des extraits que j'ai vus étaient un petit peu assez weird avec un certain Martin Brundle.
OK.
Ouais. Ouais, c'était pas très beau à voir, mais si vous trouvez si vous tapez Machine Gun Kelly sur Twitter ou bien sur Instagram, ça va probablement paraître. Allez regarder ça, mais c'était pas fameux. C'était un peu malaisant.
OK, on va aller voir ça.
Mais avant d'aller voir Machine Gun Kelly et Megan Fox, je parlerai pas de Megan Fox. On va parler avant tout de cet abandon de Charles Leclerc avant le départ.
Mm-hmm.
Leclerc s'était qualifié deuxième, mais malheureusement un problème hydraulique a causé cette sortie de piste pendant le tour de formation. Et avec raison, il était furieux, disant « Pourquoi je suis tellement malchanceux? » Je pense qu'il y avait un bon résultat à aller chercher chez Ferrari, même si Carlos Sainz a, disons, sauvé les meubles dans les circonstances, mais ça fait mal à Charles Leclerc.
C'est sûr que ça fait mal. Puis c'est encore une fois de la malchance. Tu sais, l'an dernier, je pense que c'était le moment où c'était vraiment le plus facile de le constater. Tu sais, il y avait des problèmes constamment. Que ce soit lui qui soit en tort ou la mécanique, on dirait que le mauvais sort le suit et ça n'arrête pas. C'est une suite des choses pour lui. Tu sais, c'est dommage parce que je pense également qu'il y avait un bon résultat à aller chercher pour Ferrari. Je pense pas qu'il aurait pu se battre pour la victoire. Je pense qu'au moins, il aurait pu y croire puis espérer aller chercher un bon résultat, que ce soit à la limite un podium, ce qui aurait déjà été bon là, pour Ferrari dans les circonstances. Mais vous savez, à Interlagos, tout peut arriver aussi. Hein? Fait que c'est pour ça que c'est si dommage pour Leclerc de ne même pas pu avoir mettre le pied sur l'accélérateur dès le départ. Là.
Ouais. Oh non, c'est dommage parce que quand t'as un problème hydraulique, tout s'arrête soudainement et puis c'est ce qui est arrivé au pauvre Charles parce que moi, je sais pas quel genre de résultat il aurait eu, mais si c'était le cas, je pense qu'il aurait peut-être, est-ce que je dirais un top 5 ou quoi que ce soit, juste à regarder comment Sainz a été, je pense que Ferrari aurait pu se retrouver 5-6e à peu près.
Mm-hmm. Mais clairement, je pense que ça aurait été un résultat possible pour Ferrari.
Mais clairement devant Mercedes, ça c'est 100% certain. Maintenant, on va parler du carnage au départ parce que ça a été une des raisons pour laquelle le Grand Prix a duré presque 2 heures, c'est qu'il y a eu carambolage au départ avec Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg et Alex Albon qui s'accrochent. Magnussen et Albon ont abandonné. Hülkenberg a eu des dommages, mais a quand même pu continuer. Et dans les circonstances, malheureusement, Daniel Ricciardo et Oscar Piastri ont été touchés. Piastri a été tapé par derrière Et Ricardo a reçu le pneu d'une des deux Haas sur l'aileron arrière. Donc, je dirais, au moins le pneu en question est tombé vraiment au bon endroit. Même s'il y a le halo, je ne veux pas voir des débris taper un pilote, la tête d'un pilote, mais c'est dommage pour les deux Australiens parce que heureusement le drapeau rouge est arrivé parce que ils ont pu continuer la course, mais ils étaient déjà condamnés à finir dernier parmi ceux qui ont terminé le Grand Prix.
Exact, avec des bris importants à leur voiture et on pouvait pas s'attendre à un bon résultat, malheureusement. Effectivement, je pense que les Australiens auraient pu avoir un meilleur sort, évidemment. Ce n'est pas dur à battre, mais je pense que quand tu regardes l'accident, ça me semble être un incident de course, sans plus. Un incident de départ, ça arrive souvent. Les voitures sont proches, tout le monde veut essayer de tenter de prendre l'avantage sur son adversaire. Et je pense qu'ils ont peut-être un petit peu trop poussé. Magnussen n'avait pas vu, je pense, Albon à sa droite ou à sa gauche, en tout cas, à côté de lui, malheureusement. Donc, petit incident de course qui a eu des répercussions là, sur plusieurs pilotes. Là, ouais. En plus d'allonger le Grand Prix, en fait.
Ouais, exactement. Et puis, heureusement, ça n'a pas été. Heureusement, personne n'a été blessé.
Exact.
Et puis, tu sais, ça m'a un peu popé parce que. Peut-être qu'il y en a qui pourront me corriger, mais ce départ m'a fait un peu penser à celui de 93, où je pense que c'était Michael Andretti qui était impliqué qui avait tapé le mur, mais ça ressemblait un peu à ça. Un départ où t'as genre deux pilotes qui se retrouve dans le mur, dans le mur de pneus avant le premier virage. Et heureusement, personne n'a été blessé dans cette situation, mais ça me semblait être un départ un peu similaire.
Mm-hmm.
Et c'est dommage dans la circonstance, surtout pour Alex Albon, parce que je pense qu'il y avait des points à aller chercher pour lui. Surtout la manière dont Logan Sargeant a roulé, je crois que Albon pouvait aller chercher des points. Et surtout dans la bataille contre AlphaTauri.
Oui, je pense que oui. Je pense qu'effectivement que la Williams semblait bien en forme malgré tout. Je pense que c'est sûr qu'il y a toujours des doutes avec cette Williams. On ne sait jamais vraiment sous quel régime va pouvoir dire, mais effectivement, je pense qu'Albon aujourd'hui pouvait croire fermement d'aller chercher un ou deux points en terminant soit à la 9e ou à la 10e position. Et avec un petit peu de défense et des bons départements, je pense que ça aurait pu faire le travail amplement et bien sûr une bonne stratégie. Mais malheureusement, on ne saura jamais quel résultat aurait pu donner Albon. Mais je pense qu'il était dans une bonne journée. Il aurait dû être dans une bonne journée. C'est dommage. On espère juste que tout est en ordre également. On sait que ce sont des frais importants maintenant quand il y a des accidents. Donc, on espère que les conséquences ne seront pas trop graves pour les Williams qui ont déjà eu pas mal d'accidents avec Logan Sargeant depuis le début de la saison.
Ouais, et puis aussi, juste pour compléter avec Williams, Logan Sargeant qui est fini 11e à la porte des points. Vraiment dans ces derniers, vraiment dans ce programme triple au Brésil, à Austin, à Mexico City et à São Paulo, a vraiment montré, de très bonnes choses et ça semble prometteur. Bon, d'abord, il faut préciser que Felipe Drugovic va rester pilote de réserve chez Aston Martin la saison prochaine. Donc, ce qui rend un peu peut-être la solution un peu plus facile pour James Vowles de garder Sargeant. Mais aujourd'hui, il a été vraiment correct. Il a été vraiment bon. Pas fait de, pas fait d'erreur, a ramené la voiture, même si Williams ne marque pas de points, que AlphaTauri en a deux, gratuité de Yuki Tsunoda, en plus des points au sprint d'AlphaTauri. Mais ça, il y a de quoi être satisfait pour Sargeant dans les circonstances où on doit prendre une décision pour 2024 assez rapidement.
Moi, j'ai comme l'impression qu'il complique peut-être les choses en ce moment, malgré tout. William, je vais devoir prendre une décision, je l'espère, avant la fin de la saison. S'ils ne l'ont pas prise, parce que peut-être que c'est négatif pour Sargeant, mais écoute, moi, je pense que la décision va devoir arriver plutôt que plus tard, dans les circonstances. Mais écoute, je ne sais pas encore où me placer. Est-ce que, tu sais, c'est difficile de s'habituer à la Formule 1. Enfin, est-ce que c'était seulement une question de s'habituer à la voiture, s'habituer aux conditions, s'habituer à la Formule 1 en tant que telle? Et là, vu que la saison, tu sais, on est rendu à 18 courses, 19 courses, là, donc peut-être qu'il y a plus de millage, donc des meilleurs résultats. Est-ce qu'ils vont se fier sur les derniers résultats pour prendre une décision dans le cas de Sargeant? J'imagine que oui, mais ça va être incroyablement intéressant de suivre cette saga.
Ça va être à suivre. Maintenant, on va parler du vainqueur Max Verstappen. C'est encore walk in the park pour Verstappen. 17e victoire cette saison, mais en plus de ça, il a inscrit un nouveau record avec le pourcentage de victoires en Formule 1, donc battant le vieux record appartenant à Juan Manuel Fangio. Je vais aller vous donner, j'ai complètement oublié le pourcentage, mais il a battu celui de Fangio, excusez-moi. bon, et ça, c'est mon ordi qui vient de me faire un petit problème, mais on continue. Au moins, c'est pas un problème hydraulique comme celui de Charles Leclerc. mais Verstappen, néanmoins, a été vraiment dans son affaire, même si il a eu une petite frousse quand Norris est venu l'attaquer lors de la deuxième relance. Je pense que on ne t'entend pas, Marc-André.
On l'a. Effectivement, que c'est peut-être le moment le plus inquiétant pour Verstappen, même si je pense que tout a été bien en contrôle. Encore une fois, il montre qui il est. Dans les moments importants, il se présente et il ne fait pas d'erreur. Je pense que dans les conditions actuelles où on sait que la Red Bull domine, mais sur quoi on s'attache et on se rattache avec les performances de Verstappen, c'est sa fluidité et ses erreurs qu'il ne commet pas. C'est facile quand tu mènes de faire des erreurs. Et je sais, c'est facile de dire ça, mais on le disait avec Vettel quand il dominait avec Red Bull, on le disait avec Hamilton quand il dominait avec Mercedes. Ça prend un niveau de concentration exceptionnel pour continuer de faire des bons tours lorsque tu mènes d'une manière aussi intense. Mais écoute, il y a eu deux bons départs, même si le deuxième était un petit peu moins bon. Ça fait en sorte qu'il a pu ne jamais être inquiété. De bonnes stratégies, encore une fois. Aucune inquiétude au puits. Ça mène à une belle victoire pour le 17e cette saison. Un bon pourcentage. Et il prend une place importante dans l'histoire également.
Et donc, et pour le pourcentage de victoire, c'est maintenant 70%. Et même s'il ne gagne pas à Vegas et à Abu Dhabi, ben le record est quand même battu. Certes, il y a un plus grand nombre de. Maintenant, il y a un plus grand nombre de grands prix, ce qui augmente les chances d'obtenir plus de victoires. Mais quand même, quand tu parviens à remporter la majorité des grands prix, écoute, 17 victoires dans une saison, c'est assez exceptionnel. Là, bon, OK, actuellement, c'est 85%. C'est 17 sur 20. Ascari était à 6 sur 8 en 1952. Mais vraiment, Max Verstappen est dans un autre monde. Et aujourd'hui, je pense qu'on a, on a rien d'autre à dire que, bon, et bon, à part le fait qu'il a failli aller tout droit au virage 4, parce qu'il regardait la bataille entre Alonso et Perez sur l'écran géant. Donc, ça l'a un petit peu déconcentré. Mais il a été vraiment solide comme d'habitude.
Exact. On parle d'une 52e victoire en carrière pour lui. Il dépasse donc le Français Alain Prost. Rien de moins. Il prend la 4e position quand même dans l'histoire. Et c'est ça, hein? Je pense que... Au début de la saison, je regardais le portrait et j'étais comme, bon, ben écoute, il est encore quand même loin de Vettel. Tu sais, il va peut-être en gagner, je sais pas, peut-être 13, peut-être maximum 15 cette saison. Donc, je me disais que c'était impossible que cette saison, il réussisse à aller chercher Sébastien Vettel. Et là, il est en train de me faire mentir. Il est à 2 petites victoires de devenir le 3e plus grand victorieux en Formule 1. Dans l'histoire, ce qui serait quand même là, un plateau intéressant pour Max. Et même Justin, sur le nombre de grands prix aussi, sur le pourcentage de grands prix, présentement, il est à 28,4 et Mick Schumacher est à 29,64. Donc, ce serait intéressant de voir là, s'il réussit de bonnes performances lors des prochains grands prix, s'il n'est pas capable même de battre Mick Schumacher sur le nombre de sur le pourcentage de le Grand Prix le gagner pour le moment. Là. Parce que ça peut changer, bien sûr, rapidement, mais effectivement, ce serait intéressant à voir.
Oui, et vraiment, je pense qu'il reste... en fait, il reste 2 Grands Prix, donc Vegas et Abu Dhabi. Donc, il pourrait même finir la saison comme le 3e pilote le plus victorieux en Formule 1. Alors, vraiment, chapeau à Max Verstappen. Bon. Maintenant, Marc-André, on met la table.
Oh oui.
Cette fin de course. Fernando Alonso contre Sergio Perez. 53 millièmes qui a séparé Perez d'un premier podium depuis le Grand Prix d'Italie cette année. Ça a été quand même... Bon, pour Perez, c'est certes dommage, mais ça a été... Depuis quelques semaines, sa meilleure performance depuis. On va pas se le cacher, ça a été très difficile pour le Mexicain et surtout il a réussi à rebondir après un Grand Prix de Mexico City super court qui a duré plus longtemps que Charles Leclerc au Brésil. Par contre, quand même bon, il est parti de la 9e place mais a fait un bon départ, a gagné 2 places, évidemment, avec Leclerc qui s'est retiré, mais a été capable d'être presque au niveau de George Russell. Perez a eu un bon rythme avec sa voiture et permet aussi de consolider son avance au deuxième rang des pilotes devant Lewis Hamilton.
Exact. J'ai hâte de parler quand même des Mercedes aussi. Là. Je pense que c'est important d'en parler, mais restons sur Perez pour le moment. Incroyable course pour lui aussi. Je pense que j'aurais pu le mettre dans les mentions honorables. C'est une saison difficile. On se demandait tous comment il allait réagir avec toutes les rumeurs qui sont après lui, avec toute la pression, cette position de deuxième Red Bull. On se demandait justement, même s'il allait réussir à réagir avant la fin de la saison en ayant une bonne performance, et là, il l'a eu. Il n'a pas eu le podium, il n'a pas eu la récompense finale et absolue que tout pilote veut. Et je pense que pour lui, juste de s'être battu pour un podium et d'être battu comme il l'a fait avec Alonso, également avec Russell et Hamilton en milieu de course, ben même dans le premier tiers de la course, il a dû se battre, il a dû montrer sa supériorité, et je pense que ça va pouvoir lui faire du vraiment.
Mais en même temps, tu vois, Il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué avec Perez, c'est que sur le premier, lors du premier arrêt, Checo s'est arrêté en suivant les Mercedes qui avaient une dégradation des pneus horrible. Mais j'avais pas compris pourquoi Red Bull a tenu à le faire entrer au même moment, alors que je pense qu'il pouvait facilement rester devant et, lors de l'arrêt au puits, revenir devant les deux Mercedes au lieu de se battre contre eux parce qu'ils étaient je vais garder le terme, mais les Mercedes, c'était un peu compliqué. Mais, et en plus, ils ont tenté encore une fois, le undercut sur Alonso, ça n'a pas fonctionné. Et avec 5 tours sur les médiums plus vieux qu'Alonso, ça a peut-être payé le prix, même si le dépassement dans l'avant-dernier tour était culotté et très bien calculé.
Oui, c'est stratégiquement, je pense pas que ça a été parfait aujourd'hui, effectivement. Est-ce que ça... Justement, la question se pose. Est-ce que si stratégiquement ça aurait été mieux, le podium aurait pu être plus facile à gagner, peut-être. Mais je pense que rondement, oui, on peut retenir ces petits détails-là, mais je pense que l'important en ce moment, c'est de constater que Perez s'est battu. Chose qu'il n'a pas fait depuis extrêmement longtemps. T'sais. Enfin, juste ça, je pense que c'est suffisant. Mais effectivement, on en analysant la course complète, on peut y voir les bébés.
Ouais, parce que moi, je pense que c'était pas nécessaire. Je pense que Perez avait le podium entre ses mains.
Est-ce qu'ils ont eu peur, justement, de l'undercut? Probablement. Finalement, ils se sont fait jouer le tour. C'est ça qui est dommage, parce qu'ils n'ont vraiment pas réussi. Est-ce qu'il y avait vraiment peur que les Mercedes se stationnent? Puis peut-être, je sais pas.
Ouais. Parce que, le l'undercut sur Alonso, c'était quand même une bonne idée, mais ils ont oublié que Fernando Alonso, c'est Fernando Alonso. Donc,
ouais.
Il a été capable. Et d'ailleurs, Alonso a fait. On parle de Perez comme étant le ministre de la Défense, et avec raison.
Ouais.
Mais on oublie que Fernando Alonso est un maître de la Défense.
Ben oui.
Écoute, on pourrait carrément l'appeler un dieu de la Défense. Des exemples récents. Hongrie 2021. Ou bien sa victoire au Grand Prix de Saint-Marin 2005 à Imola. Sur un circuit très difficile pour dépasser contre Michael Schumacher. Alonso est vraiment capable. Et justement, la trajectoire qu'il avait, c'était vraiment... C'est un pilote qui est très intelligent, qui est super intelligent en piste. Il est capable de... Il est vraiment capable non seulement de choisir ses batailles à bon escient, mais aussi à vraiment être magicien. Et justement, ce dépassement, quand il a vu, et il a dit aussi, quand il a vu que Perez a freiné un peu tardivement dans le virage 1 sur le dernier tour, ça lui a permis de se rapprocher. Et ensuite, lorsqu'il avait le DRS, il l'a dépassé. Et ensuite, c'était merci, bonsoir, j'ai la troisième place, même si Checo avait le DRS dans les derniers mètres.
Ouais, tout est dans l'ordre de, oui, se concentrer sur soi, mais être capable de visualiser et de prévoir les gestes de l'autre pilote. Ça, c'est un art qu'Alonso possède. Puis, c'est son intelligence aussi en piste. Ce qui fait en sorte qu'à 42 ans, je ne sais pas, il est encore capable d'être dominant. Même si la saison n'a pas été parfaite, on s'attend qu'avec la voiture qu'il avait au milieu de la saison et même vers la fin, c'est extrêmement difficile pour lui. Mais dans une manière générale, tu vois son talent dans ces moments-là, dans les petits moments, dans les petits détails. Lorsque tu analyses le travail d'Alonso ou que tu Même, je vous donne le défi de l'essayer avant la fin de la saison. Là. Si vous avez F1 TV, là, connectez-vous un écran sur le travail d'Alonso. C'est vraiment fascinant. Sa tête est en constant mouvement. Il essaye de tout comprendre rapidement. Et c'est d'autant plus intéressant quand il est dans une position de victoire ou de podium.
Oui, et puis même si vous voulez revoir la course à part, même à l'intérieur, dans les derniers tours, allez voir la caméra embarquée de Sergio Perez aussi. On le voit très bien la trajectoire qu'il prend. Je me dis ok, moi je pensais que il essaie vraiment de se. Je disais ça avec mon ami que j'ai invité pour le Grand Prix. Il essaie vraiment de se défendre. Donc, prend des lignes différentes pour se défendre. Et ça, il a été capable de super bien maîtriser, ça. Alors, comme je dis, si Perez est le ministre de la défense, Alonso est le dieu là-dessus parce que vraiment, là, c'est ce qui a joué en sa faveur et aussi le fait de revenir. Moi, je pensais que Perez allait toucher un peu le pneu arrière droit de Alonso parce que ce dernier est vraiment revenu pour fermer la porte et clore le dépassement sur Perez, mais vraiment ça a été très bien calculé de la part d'Alonso et ça complète vraiment un bon week-end pour la part d'Aston Martin. Bon, le sprint ça a été un peu plus compliqué surtout en qualification, mais c'est l'écurie verte s'est qualifiée troisième et quatrième avec Lance Stroll qui est parti troisième, bon, avec la météo, mais il a réussi à faire le tour qu'il fallait pour se passer devant. Mais en course, outre ces deux départs qui ont été un peu un crime contre l'humanité, Stroll a réalisé sa meilleure performance de la saison depuis le Grand Prix de Bahreïn et un peu les premiers tours du Grand Prix d'Arabie Saoudite avant son abandon. Je pense que ça a été le meilleur de Stroll cette année. Là.
Je suis d'accord. J'allais justement te le mentionner que je trouvais que c'était sa meilleure performance. Il a été bon. Il a été très bon. Malheureusement, il n'a pas été bon dans ce qu'il contrôle habituellement. C'est ses départs, donc c'est ça la contradiction, tout ce qui est contradictoire en ce moment avec Stroll, c'est qu'il a réussi à bien faire ce qui actuellement a de la difficulté et ce qu'il maîtrise lors du départ, il ne l'a pas fait. Donc c'est ça qui est très marrant dans le cas de Stroll, mais écoute, s'il peut construire un peu sur ça, puis c'est pas d'une manière défaitiste que je le dis, pas du tout, et c'est pas pour jouer à Stroll fait pitié, tout ça. Non, mais ça va lui faire du bien d'avoir une performance comme ça. Il n'a pas su profiter. Au contraire d'Alonso, il n'a pas su profiter de la voiture qui était très bonne en début de saison. Donc, il y a eu des problématiques en début de saison. Malheureusement, là, la voiture s'est perdue complètement. Tout ce qu'elle avait de spécial, elle s'est fait rattraper par les autres. Donc là, encore plus, Stroll passait pour un pilote incapable. Mais là, qu'il soit capable de se battre comme ça, j'ai aimé ça dans un moment important quand même au Brésil. Ça donne de précieux points pour Aston Martin. Donc, l'important, c'était ça. C'était de capitaliser sur la chance d'obtenir de bons points. Et Lance Stroll le fait. Et encore plus, Stroll le fait.
Et en plus aussi, je pense que... Je viens de tomber sur un des tweets de Bernie Collins qui était l'ancienne stratégiste de Formule 1 mais qui travaille pour Sky Sports F1 et aussi pour F1 TV. On a vu l'évidence aussi que apparemment bon les mises à jour ont été enlevées et qu'on est revenu un peu à une configuration de base qu'on avait vue cette saison, avant ou bien même pendant le Grand Prix du Canada. Et ça a fonctionné parce que vraiment, les deux Aston Martin, dans le sprint, on l'a vu aussi, c'est qu'ils avaient du rythme, même s'ils n'ont pas marqué de points, mais ils ont fait du progrès. Et Stroll, entre autres, a été capable de contenir un Carlos Sainz qui était plus rapide. Mais donc, comme d'habitude, la Ferrari avait peut-être du mal à bien Mais en fait, la dégradation des pneus était un peu plus importante que les Aston Martin. Et ça a fonctionné. Ils ont été devant les Mercedes, même si, je le rappelle, ils ont été derrière au premier départ. Mais Stroll, ça a été vraiment... C'est une performance qu'on aime voir de sa part. Et aujourd'hui, il n'a pas commis d'erreur en piste après les départs. Il a été bon. Malheureusement, il y a eu cet arrêt au puits lent qui a duré 4,3 secondes, mais qui n'a eu aucune incidence au final parce que Sainz aussi a eu du mal à gérer, par exemple, il y avait eu des problèmes avec ses rapports de vitesse en décélération. Mais Stroll a vraiment fait une très belle course. Et c'est son meilleur résultat depuis le Grand Prix d'Australie où il avait fini quatrième, mais encore là, il a été chanceux de finir quatrième parce qu'on dans ce carnage du Grand Prix d'Australie, il est parti large au virage 3, donc ce qui aurait pu ruiner un top 4 facile. Mais aujourd'hui, une sinon sa meilleure performance de la saison. Marc-André, tu sais pourquoi quand je t'ai demandé tes évaluations, je t'ai pas demandé la contre-performance?
Je me demandais aussi.
C'est parce qu'on va parler de Mercedes.
Ah oh oui, OK. Ah oui.
Ah, écoute.
Tu m'as enfoncé dans la gorge comme ça, là.
Ah oui. Normalement, je te le laisse. Mais aujourd'hui, je pense qu'on s'entend que Mercedes a été super difficile. Et eux, on parle de Ferrari qui souffre normalement de la problème de dégradation des pneus, même Haas. Mais Mercedes, aujourd'hui, a été l'écurie qui a souffert et ça a été vu en plein jour.
Ouais, puis je me demande vraiment, c'est rare qu'on voit, tu sais, bon, depuis qu'ils ont perdu la domination de la Formule 1, on voit rarement quand même le Mercedes dans une position aussi difficile. Rien n'allait, mais vraiment rien n'allait aujourd'hui. J'aimerais tellement ça être un petit oiseau et pouvoir rentrer dans les garages pour voir ça a été quoi la réaction après la course et les discussions. J'espère qu'on avait le petit oiseau Netflix qui était pas trop loin. Je serais pas contre quand même qu'il soit présent au Brésil parce que ça a dû être quand même intéressant là, comme post-course. Là.
Moi, je me demande aussi s'il y a eu des tables qui ont été prisées.
Peut-être. Ou des écouteurs Bose, sans les nommer.
On fera pas de placement de produit, mais on va faire un placement de... Ouch! George Russell, par contre, lui, il l'a pas eu facile parce que Hamilton, à un moment donné, ça s'est stabilisé, mais Russell a été celui qui a payé le prix, hein. Je pense, bon, il a abandonné parce que, bon, selon l'écurie, c'est lié à des problèmes de moteur, d'unité de puissance. Mais moi, je pense qu'il aurait pu finir 10e, voire même 11e avec le rythme que les Alpine avaient, là.
Ouais.
Russell aurait pu finir hors des points et Hamilton, bon, aurait même pu finir 9e alors qu'il y avait 13 pilotes sur le même tour.
Ouais.
Si on exclut évidemment Ricardo et Piastri.
C'est difficile. C'est vraiment difficile aujourd'hui. Puis c'est curieux quand même parce que la voiture, dans les dernières semaines, bien qu'elle ne soit pas parfaite, me semblait dans une bonne grâce et visiblement continuait de prendre un certain rythme. Tu pouvais quand même croire aux chances d'Hamilton et de la Mercedes d'amasser des points importants, de faire des podiums, d'y croire au moins. Puis aujourd'hui, c'était excessivement difficile. Très curieux là, de comprendre pourquoi aujourd'hui ça n'a pas allé. La dégradation des pneus. Mais moi, j'ai surtout hâte aussi de voir la forme des Mercedes dans le froid glacial de Las Vegas dans quelques semaines. Ça va être une température complètement différente. J'ai vraiment hâte de voir ça, là.
Donc, et ça, c'était Toto Wolff au micro de Sky Sports tout à l'heure. Il n'a pas... c'est clair, il n'a pas apprécié la performance de Mercedes jusqu'à même qualifier le résultat d'inexcusable. Bon, Lewis a survécu et il dit qu'il a de la peine pour les deux pilotes parce que ils ont conduit un truc aussi misérable et il dit que cette voiture ne mérite même pas de gagner. Je crois que cette même voiture aurait pu gagner à Austin, mais de toute façon, ils auraient perdu la victoire. Alors, ouais, ça, c'est une contre-performance aussi horrible pour Mercedes en termes de rythme. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Mercedes autant en difficulté. J'avais l'impression de revoir peut-être le Mercedes du début des années 2000 en un moment donné. Parce que ça, c'était... Ou bien même peut-être le Mercedes de Singapour 2015.
Mm-hmm.
Je pense qu'on pourrait aller jusque-là. Mais vraiment... l'usure des pneus... Et on l'a vu aussi, l'usure des pneus arrière de la Mercedes a vraiment tué. On a eu aussi le cas lors du sprint aussi. Le pauvre Hamilton a été carrément bouffé par Leclerc et même par Yuki Tsunoda. Mais en course, ça a été pire.
Oui, je suis d'accord. Rien n'allait. Puis, je pense que les commentaires de Toto Wolff, comment je dirais, vont loin. Mais avec raison, parce qu'aujourd'hui, la voiture était lamentable. Je pense que ça serait mon terme, là. C'est lamentable comme performance de Mercedes. Puis, je pense qu'il va falloir quand même regarder la situation de près parce que, bon, ça arrive, là. On le sait, là. Il y a des mauvaises courses pour toute écurie. Mais je pense que c'est important pour Mercedes de s'asseoir puis de comprendre vraiment ce qui s'est passé au Brésil, pourquoi la dégradation était aussi importante, pourquoi ils n'étaient pas capables de rien faire avec ça. J'ai très hâte de voir.
Donc, au moins, il reste Las Vegas et Abu Dhabi pour en finir avec cette voiture que Toto Wolff conduit, qualifie de misérable. On n'en a pas parlé. On parle beaucoup de Mercedes, de cette fin de course de Verstappen, mais Lando Norris a connu un très bon Grand Prix. Il a obtenu la pole lors du sprint, a fini deuxième au sprint, mais il est parti sixième, a fait un très bon départ et vraiment a donné un peu de fil à retordre, à Verstappen. Et en fin de course, non, et puis il y a quelque chose. Il a réalisé le meilleur temps avec les gommes dures, médium et tendre. Donc, non, mais c'était vraiment, à part Verstappen, sur une autre planète.
Oui, vraiment. Puis c'est pour ça que je l'ai mis comme ma performance du jour dans les circonstances avec sa voiture. Il était en feu. C'était vraiment littéralement en feu. Puis je suis quand même content que les fans de Formule 1 l'aient récompensé, malgré qu'il aurait été facile d'aller vers Alonso, malgré qu'il aurait été facile d'aller vers Perez ou n'importe quel autre pilote ayant eu une bonne performance, de récompenser un pilote qui a semblé, tu sais, avoir la vie assez facile quand même, mais dans tous les cas, il a été dominant, il a été bon, bel travail, donc... Je suis vraiment content que les fans l'aient récompensé pour cette raison-là. Il est allé même chercher le point Bonnie, un point important quand même dans les circonstances. Donc, écoute, chapeau à lui, là, il a fait tout le travail.
Ah oui, vraiment, c'était un très bon Grand Prix de sa part, un très bon week-end aussi. Sa première victoire va venir à un moment donné, mais
Là, il est à 13 podiums, c'est ainsi, je sais pas que je crois. Là,
ouais, je pense qu'il vient d'égaler la marque de Nick Heidfeld pour le nombre de podiums sans victoire. Alors, ça va venir, je pense. C'est pas un record que quelqu'un veut obtenir.
Effectivement. Puis, tu sais, il est également, ça c'est important de le mentionner, il est à 4 points actuellement de Fernando Alonso et de la 4e position.
Ouais.
Ça va être une course intéressante là, entre les deux. C'est sûr que je pense pas qu'Alonso va pouvoir se battre dans les prochaines courses pour tenter de conserver cette 4e place. Je parle bien du classement des pilotes, là, bien sûr, là, mais ça me ferait plaisir quand même là, de voir Norris avec cette position puis de réussir à l'avoir. Même là, actuellement, Alonso est à 8 podiums, Norris est à 7. J'irais pas ça, de voir Norris avec un podium ou deux de plus, là, juste pour le voir être le troisième pilote avec le plus grand nombre de podiums. Là, ça pourrait être agréable.
Ah oui, non, il pourrait, c'est possible. Vegas, ça va être une inconnue. Puis,
ouais,
Abu Dhabi, ben, peut-être qu'il y aura quelque chose. Les Alpine et Alpha Tauri, ben, plus du côté de Yuki Tsunoda, des héros, des pilotages vraiment de bonne qualité de la part des trois pilotes, si on peut dire, parce que je peux exclure malheureusement Daniel Ricciardo qui était une victime collatérale de ce carambolage.
Mm-hmm. Ouais.
Grand Prix.
Oui, puis probablement qu'il aurait pu être dans une aussi bonne forme que son coéquipier Yuki Tsunoda dans les circonstances. Pierre Gasly va chercher la 7e position. C'est pas rien. Devant Hamilton, bien qu'on dise n'importe quoi sur la performance de Mercedes, c'est quand même intéressant là, de trouver Pierre Gasly là, à cette position. Il était à peu près à 6 secondes de 5, ça, donc il ne pouvait pas aspirer à rien d'autre. Mais quand même, 6 bons points. Ajouter à cela le 1 point de Esteban Ocon en terminant 10e, si je me rappelle bien, là, parce que Tsunoda est bien 9e, là, on s'entend. Donc, je pense vraiment que Tsunoda peut être content pour sa performance parce que lui aussi, ça va lui faire du bien quand même de continuer à avoir de bonnes performances, de sécuriser sa place, de juste d'avoir de finir la saison en beauté pour mieux partir l'an prochain. Moi, je pense vraiment qu'il doit être satisfait de lui.
Ah oh oui, vraiment. Et puis du côté de Alpine aussi, ils avaient du rythme dans ce Grand Prix. Et puis vraiment, Gasly, bon, il disait que c'était une de ses meilleures performances de la saison. Puis je suis d'accord, il a très bien fait. Je dirais même que c'est une de ses meilleures performances depuis Australie, avant la guerre civile, dans les derniers tours. Mais vraiment, Gasly a été excellent. Belle bataille aussi avec Tsunoda. Dans les premiers tours de la deuxième relance. Alors, il y a surtout une belle gestion des pneus aussi qui a été super importante. Esteban Ocon aussi, à un moment donné, qui avait inscrit le meilleur tour en course. Et aussi le travail d'équipe entre les deux coéquipiers pour permettre à Gasly d'aller chercher une des deux Mercedes. Je pense que c'était Russell, si je me souviens bien. Donc, vraiment, il y a de quoi être heureux chez Alpine.
Vraiment. Puis encore là, tu sais, vous savez, j'ai souvent été critique envers Alpine, mais quand ils font des bons coups, je suis capable de le reconnaître. Puis encore une fois, des héros obscurs, comme je les appelle. Tu sais, Pierre Gasly, malgré tout, a passé inaperçu, mais maudit qu'il a eu une belle course. C'est important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important pour Alpine de continuer à avoir des performances comme ça. Bien qu'ils soient dans le no man's land, là, ils ne peuvent pas aller rejoindre personne, ne peuvent pas se faire dépasser par personne. Je vous rappelle peut-être le classement des constructeurs actuellement. Là, Alpine se retrouve à la 6e position avec 108 points. Devant eux, Il se trouve Aston Martin à 261 points et derrière Williams avec 28. Donc, c'est à... Même si de continuer à travailler pour que la voiture soit en bonne forme ou du moins de continuer à avoir de bonnes performances en sachant que il n'y a pas vraiment d'enjeu, je trouve ça quand même intéressant qu'une écurie comme ça continue de se battre ici. Puis aujourd'hui, c'est un peu ça. Là, ils se sont battus.
Oh oui, vraiment. Là, je pense vraiment chapeau à Alpine d'avoir fait ça. Et pas pour revenir à AlphaTauri et Yuki Tsunoda. Non seulement la belle performance en sprint, plus les 2 points pour le Grand Prix, on permet à AlphaTauri de se rapprocher à 7 points de Williams. Et ça va être vraiment serré. Et imagine, la semaine dernière, avant le Grand Prix de Mexico City, ils étaient derniers. Et là, aujourd'hui, ils se retrouvent à 7 points de Williams et ont l'opportunité de finir septième. Et évidemment, bon, on verra qu'est-ce que ça va donner la Williams sur le strip à Vegas dans 2 semaines. Mais AlphaTauri, avec les nombreuses mises à jour qu'ils ont apportées, ont vraiment trouvé la chaussure à leurs pieds. Alors, vraiment, je crois qu'il y a de quoi être heureux.
Après ça, on me dit que la saison est plate parce que Red Bull domine. Il y a d'autres choses. En ce moment, là, il reste 2 courses. Là. Il y a beaucoup de choses à surveiller. La course entre Mercedes et Ferrari, la course entre McLaren et Aston Martin, malgré tout ce qu'on peut dire, si Aston Martin est dans le coup par miracle à Las Vegas, ça se peut qu'il soit dans le coup avec McLaren. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à surveiller. Puis AlphaTauri, en ce moment, se bat pour plusieurs millions. Là. Puis Williams aussi. Là. Williams, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pu aspirer à autant de millions. J'ose espérer qu'ils vont être en bonne forme à Las Vegas et à Abu Dhabi là, pour espérer rester 7e et aller chercher la meilleure place des autres, donc, si on peut les appeler ainsi.
Oh oui, clairement. Donc, il reste vraiment, vraiment du... Il reste encore 2 courses, mais vraiment, je crois que ça va être tellement beau à voir pour AlphaTauri qui pourrait finir 7e si la tendance se maintient.
Ouais.
Donc, je pense que on a fait le tour. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose par rapport au Grand Prix, Marc-André?
Non, je pense qu'on a fait un bon résumé quand même. Là.
Donc, super. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous donner tout de suite le classement des pilotes après le Grand Prix du Brésil, de São Paulo, qui est maintenant officiel puisque je viens de voir le classement final publié par la FIA. Alors, Max Verstappen à 524 points.
C'est lui le premier. Ouais, j'avais eu un petit doute pendant un instant.
524 points. Il pourrait même devenir champion. Il pourrait même être son propre pilote dans sa propre écurie et il serait champion des constructeurs.
On peut-tu avoir le Verstappen Racing l'an prochain, tu penses?
Ah, écoute, c'est possible, mais il faut que... Mais ça, F1 2023 devrait faire ça.
Alors, je te laisse dire,
Alors, on a Sergio Perez qui est deuxième avec 258 points. Lewis Hamilton avec 226. Fernando Alonso montre au quatrième rang avec 198 points. Lando Norris, cinquième avec 195. Carlos Sainz, sixième avec 192 points. Charles Leclerc reste avec 170 points. George Russell aussi ne marque pas de points, donc il reste à 156. Tout comme Oscar Piastri qui n'a pas marqué de points, est à 87 points. Et Lance Stroll avec ses 10 points. Revient au 10e rang, ayant dépassé Pierre Gasly. Au championnat des constructeurs, Red Bull a 782 points. Mercedes est à, c'est 400 points de plus que Mercedes. Ferrari est troisième avec 362 points. Donc, il y a toujours cette bataille pour la deuxième place au championnat des constructeurs qui se dessine. La bataille pour le quatrième rang continue toujours entre McLaren qui a l'avantage sur Aston Martin, 282 contre 261. Alpine va finir la saison sixième. Williams est septième avec 128 points, avec 28 points, excusez-moi. AlphaTauri est, Williams est septième avec 28 points. AlphaTauri est huitième avec 21 points. Alfa Romeo qui a retiré leurs deux voitures, neuvième avec 16 points. Et Haas termine le classement avec 12 points. Bon dernier. C'est ce qui complète cet épisode du bulletin GP dans le cadre de l'après-course du Grand Prix de São Paulo. Ah, Marc-André, j'espère que tu seras prêt parce que notre prochaine après-course, Vegas.
Écoute, il y a deux possibilités. Soit on sacre, soit on est heureux.
Ben écoute, je l'ai dit à Jean-Sébastien, s'il n'y a pas de Céline Dion sur la grille du Grand Prix de Las Vegas, je demande à ce que ça soit retiré.
J'ai une hypothèse et allons-y avec un pari. Je parie qu'on verra Céline Dion sur la grille en train de donner un beau câlin à Lance Stroll.
Ah, c'est possible. Je le souhaite. Et avec ses enfants en plus.
Deux personnes qui sont souvent au Québec, disons-le. Fait deux fiers Québécois qui sont souvent au Québec. Je pense qu'on va pouvoir être fiers de pouvoir se donner un beau câlin sur la grille à Las Vegas.
Je l'espère et j'espère qu'on pourra en parler durant notre après-course qui sortira dimanche matin étant donné que le Grand Prix est à 1h, heure du Québec, la course étant samedi à Vegas. Et d'ailleurs, on va parler de ce Grand Prix dans notre prochain épisode qui ne sera pas cette semaine, mais l'autre semaine d'après, avant le Grand Prix de Vegas. Donc, on va essayer de mettre la table sur ce Grand Prix que la Formule 1 considère spécial. Alors, vous pouvez nous écouter sur toutes nos plateformes de podcast préférées, Apple, Spotify, Google et autres plateformes où vous écoutez vos balado-diffusion. On a aussi nos comptes Facebook, Twitter, Instagram, Threads, @lebulletingp. Et évidemment, le groupe Facebook La Monoplace pour discuter de Formule 1 à tous les jours. Marc-André, un énorme merci d'avoir été là.
Ben, merci à toi encore, Abdou. Ça a été un réel plaisir.
Et on va aller probablement regarder les deux derniers tours du Grand Prix de São Paulo en boucle pour le reste de la soirée ou bien même en attendant le Grand Prix ou le Grand Prix du Mativu de Las Vegas.
Je ne rentre pas travailler cette semaine. Je ne fais que regarder les deux derniers tours.
Alors, c'est ce que nous allons faire. Mon nom est Abdou Sal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Passez une excellente semaine, peu importe où vous êtes. Et on se retrouve une prochaine fois pour une balado du bulletin GP. Salut tout le monde!
Salut à tous!